J'ai intitulé par Sur les traces de l'ancienne histoire d'Israël. Nous allons nous occuper de la Bible et de l'archéologie. Et en général, on peut dire que entre Bible et archéologie, il y a une belle harmonie à partir d'environ 850 avant Jésus-Christ. Mais avant 850 avant Jésus-Christ, il y a au moins jusqu'à très récemment eu beaucoup de difficultés entre Bible et archéologie. Mais il faut savoir que depuis environ 850 avant Jésus-Christ, on se basait sur la chronologie des Assyriens, qui est une chronologie bien établie et bien transmise. Mais justement, avant 850 avant Jésus-Christ, on a dû, par manque d'une chronologie assyrienne, se baser sur la chronologie égyptienne, qui est transmise d'une façon très fragmentaire. Et là, à ce moment-là, on a des grands problèmes entre Bible et archéologie. Mais quand même, on a, surtout depuis le siècle passé, beaucoup de savants qui ont dit, mais vous savez, lorsqu'il y a des problèmes entre Bible et archéologie, c'est tout à fait normal parce que la Bible contient beaucoup de mythes et les gens n'ont pas tout de suite écrit les choses, ils ont transmis oralement les choses d'une génération à l'autre. Ces histoires ont été transformées toujours. Donc, ce que nous trouvons dans la Bible, ce n'est pas fiable historiquement. C'est pour ça qu'il ne faut pas se poser des questions. Pourquoi il y a des difficultés entre Bible et archéologie ? Mais lorsqu'on réalise que les problèmes commencent seulement là où on se base sur la chronologie égyptienne, on a, il me semble, au moins le droit de poser la question, est-ce que peut-être le problème ne se trouve pas dans la Bible, mais dans la chronologie égyptienne, n'est-ce pas? Et comme vous voyez sur la feuille, des nouveaux résultats de l'égyptologie moderne nous poussent à répondre avec un oui décisif à la question « Est-ce que le problème se trouve dans la chronologie égyptienne ?» Un livre très important à ce sujet-là est de l'égyptologue britannique David Rawl, « A Test of Time » et ça a été édité par 1985. Et il a montré après des recherches de 20 ans, avec tout un team de différentes spécialités, il a montré que la chronologie traditionnelle, que sur la feuille j'ai toujours noté CT, la chronologie traditionnelle devrait être raccourcie par au moins 350 ans. Et cela veut dire qu'il a pu montrer que des dynasties qu'on avait mis dans un ordre chronologique, l'une après l'autre, ont parfois plutôt régné en même temps sur des parties différentes de l'Égypte. Et il s'agit surtout, dans notre contexte, de la 21e et la 22e dynastie en Égypte. Vous voyez ici une stèle assyrienne. Donc, pour expliquer que la tradition de la chronologie des Assyriens est très bien fondée, et lorsqu'on se fonde là-dessus, on ressent aucun problème entre Bible et archéologie. D'ailleurs, ce texte-là, c'est l'obélisque noir. Il est devenu fameux sous ce nom, nous montre même des détails assez frappants. C'est indiqué ici, sur le texte assyrien, qu'il s'agit là du roi Jéhu d'Israël, des 10 tribus, qui se prosterne devant Salmanesser III de l'Assyrie. Donc vous voyez, c'est un événement, c'est un roi biblique que nous connaissons de la Bible, qui se prosterne, c'est donc pas le Père de Noël que vous voyez ici avec cette belle barbe, mais c'est le roi Jéhu de la Bible. Et on pourrait multiplier énormément ces exemples comme des découvertes archéologiques sont en harmonie avec la Bible. Mais lorsqu'il s'agit de la chronologie égyptienne, là, justement, ça va plus tellement bien. Au moins, si on ne corrige pas cette chronologie. Ici, vous voyez donc la chronologie égyptienne traditionnelle qui remonte jusqu'à presque 3000 avant Jésus-Christ. Et David Rawl et son team, ils ont retrouvé les difficultés particulièrement dans cette époque qu'on appelle la troisième époque moyenne, la période de Sheshonq I et d'autres pharaons. Là, ils ont pu montrer que deux dynasties ont, pour une grande partie, régné au même temps. Et voilà, on doit donc raccourcir ici plusieurs centaines d'années la chronologie. Et avec ça, tout descend dans son âge, toute l'ancienne histoire de l'Égypte. Une première question qui nous occupe, c'est la question qui était le pharaon Chichak que nous trouvons en 2 Chroniques 12 et 1 Roi 14. Là, il est question d'un pharaon qui est venu piller Jérusalem à l'époque de Roboam, fils de Salomon. Eh bien, normalement dans la Bible, lorsqu'il est question des pharaons, le nom propre du pharaon n'est pas mentionné. Mais là, nous avons, même dans la Bible, le terme Chichak, le nom propre de ce pharaon, de ce roi égyptien. Alors, qui était Chichak? C'est notre grande question. Ici, vous voyez d'ailleurs Jérusalem à l'époque de Salomon et de Roboam. Vous voyez avec sur le sommet le temple de Salomon sur le rocher. Ici, nous sommes à Karnak, en Égypte. Champollion, cet homme intelligent de la France, qui a pu lire finalement les hiéroglyphes, qui a pu résoudre le code égyptien. Lui, il était une fois dans sa vie en Égypte, entre autres aussi à Karnak. Et ce mur, dans ce temple à Karnak, il l'a bien étudié. Vous voyez ici tous ces bonhommes-là, toute une série de bonhommes, et sur chaque bonhomme, il y a une cartouche où se trouve un nom d'une localité. Et ici, nous trouvons la liste des conquêtes du pharaon Sheshonq I. Nous avons ici beaucoup de noms que nous connaissons du pays de Canaan. Entre autres, il a trouvé une cartouche intéressante. D'ailleurs, ça, c'est Champollion. Déjà, à 10 ans, il s'est mis dans la tête, il veut une fois briser le code des hiéroglyphes. Il voudrait lire ça. À 18 ans, il est devenu professeur d'université. C'est pas mal, n'est-ce pas? Et plus tard, il a vraiment pu atteindre son but. Voilà, en détail, cette mur à Karnak. Vous voyez maintenant mieux ces bonhommes avec la cartouche. Cette cartouche-là, il l'a lue de la façon suivante. Yuda Hamalek. Et il s'est dit, ah voilà, ça veut dire que Sheshonk, il a attaqué la Judée, le royaume de la Judée. Mais maintenant, on doit être au clair qu'il a fait une petite faute. Il n'aurait pas dû lire Yuda, mais Yad Hamalek. Et Yad, ça veut dire en hébreu une mémoire, une stèle. Donc il s'agit ici d'une stèle royale. On ne sait pas exactement où elle se trouve, mais puisque les noms à côté sont des noms géographiques qui se trouvent tous au nord d'Israël, dans la vallée de Jézréel, Armageddon, n'est-ce pas? Alors, on doit déduire que aussi cette localité, Yad Hamalek, se trouve aussi au nord. Et voilà, lorsqu'on met ensemble tous ces noms de Karnak, on reçoit donc une carte comme ça. On voit que le roi Sheshonk I, il a fait donc la guerre au nord d'Israël, sur le territoire des 10 tribus, mais il a épargné le sud, la Judée et Jérusalem. Donc Sheshonk I n'a pas attaqué Jérusalem. Cela indique que Sheshonk I ne peut pas être le pharaon Shishak de la Bible. Et il faut savoir ce synchronisme de Champollion, Sheshonk I et Shishak, n'est-ce pas, le nom ressemble bien, et le synchronisme décisif entre Bible et archéologie. Sur ce synchronisme, on a basé tout le reste. Et lorsque ce synchronisme n'est pas juste, alors tout tombe. En plus, ça veut dire qu'on a en quelque sorte basé la chronologie égyptienne sur la chronologie biblique. Parce que Champollion s'intéressait à trouver des relations entre Bible et Égypte. En plus, ça veut dire que Champollion, ce n'était pas un ennemi de la Bible. Il a essayé de trouver les relations. Et par ce désir de trouver, de ce bon désir de trouver des relations, il a finalement mis dans l'ombre ou dans les ténèbres les vraies relations entre Bible et Égypte. N'est-ce pas? Parfois, une bonne intention, c'est le contraire de bon. Maintenant, lorsque nous voyons que Sheshonk ne peut pas être Shishak, alors nous allons nous demander, mais qui était Shishak en vérité? Et vous avez le titre sur votre feuille, Ramsès II est égal à Shishak. Et pour voir cela, nous allons maintenant ensemble au Wadi Hammemet. C'est un endroit où on a creusé des pierres pour bâtir en Égypte. Et là, on a trouvé un graffiti, on dit aussi en français graffiti, d'un architecte royal qui s'appelle Khnemibré. Voilà ce graffiti. Et cet architecte royal a ici mis 22 générations de ses ancêtres. Il a daté ici exactement dans quel an du roi Darius I il a écrit ça. C'est pour ça que nous pouvons, puisque là la chronologie entre Bible et l'histoire est bien établie, nous pouvons donc dater exactement sur l'an 496 avant Jésus-Christ. C'est la 26e le 26e an de Darius I. Et si on remonte dans cette chronologie, 11 générations, on trouve ici le nom de Haremsaf. Et Haremsaf, c'était un architecte royal de l'époque de Sheshonq I. Et si on va encore plus loin, 22 générations en arrière, vous avez ici le nom de Rahotep. La 22e génération, Rahotep, qui était un architecte royal de l'époque de Ramsès II. Alors maintenant, nous pouvons faire un petit calcul. En Égypte, là, en général, on est d'accord, une génération moyenne durait environ 20 ans. C'est-à-dire, depuis la naissance du premier enfant en Égypte, le père avait normalement à peu près 20 ans. Alors, on s'est marié un peu plus tôt que dans notre société, mais nous comprenons cela parce que la vie durait en général en Égypte 30 ans, en moyenne. C'est pas très beaucoup. Eh bien, nous pouvons faire un calcul. 11 générations, ça ferait 11 fois 20 ans. Et comme ça, on pourrait dater depuis 496 avant Jésus-Christ, à peu près la période de Sheshonq I, n'est-ce pas? Et là, nous arrivons à 776 pour Sheshonq. Et non pas, comme on devrait, si Sheshonq était Shishak, on ne remonte pas à 935 ou 25 avant Jésus-Christ. Donc cela montre clairement que ce Sheshonq, il a vécu à peu près 200 ans après Shishak. Mais si on calcule maintenant les 22 générations jusqu'à Rahotep, architecte royal de l'époque de Ramsès II, alors là, nous arrivons approximativement à l'époque de 936 avant Jésus-Christ, ce qui est l'époque de Roboam. Et cela nous montre que Ramsès II pourrait être le Shishak de la Bible. Mais d'abord, nous avons un problème fondamental, parce que Sheshonq, ça ressemble à Shishak, mais Ramsès ne ressemble pas du tout à Sheshonq, n'est-ce pas? Il faut résoudre ce problème. D'ailleurs, c'est toujours un problème avec la prononciation des mots et noms égyptiens. Parce qu'en égyptien, les hiéroglyphes n'expriment que les consonnes, comme en hébreu, n'est-ce pas? Alors, on n'exprime pas les voyelles. C'est pour ça, en général, les égyptologues ne savent pas comment on a prononcé à l'époque. Lorsqu'on ne sait pas les voyelles, on met simplement la voyelle « e ». Enfin, on peut essayer une fois en français de mettre toujours les voyelles « e » et on arrive à se faire comprendre. Ça sonne un peu différemment que comme dans le langage courant, mais c'est possible de se comprendre. Et les égyptologues aujourd'hui, alors ils prononcent de cette façon. C'est pour ça, par exemple, le nom Khnemibre, n'est-ce pas? Là où on ne sait pas les voyelles, on met E. Mais on a des inscriptions d'autres peuples du Proche-Orient qui parfois parle aussi des pharaons de l'Égypte et qui exprime aussi les voyelles. C'est pour ça que nous savons parfois exactement comment on a prononcé les noms. Et chez les Hittites, on trouve, et aussi chez les Assyriens, on trouve le terme Sheshonq, et chez les Assyriens, on le prononce Sisankou. Alors, c'est déjà moins proche de Shishak, n'est-ce pas? Et Ramsès, c'était non plus la prononciation comme on le faisait À l'époque, d'ailleurs, ça c'est Ramsès, au moins ça, le coffre de sa momie, et, mais nous avons quand même une idée comment son visage était. Et là, vous voyez la cartouche de Ramsès. Et on prononçait, selon les sources hors de l'Égypte, on prononçait par Ramsès, mais Riyamachesha. Mais la forme courte, c'était simplement la fin. Shesha ou Shisha. C'est ça, les deux signes. Ça fait Shesha. Riyamachesha. Shesha, Shisha. Le peuple en général, et aussi dans sa famille, appelait Ramsès Shisha. Et ça fait déjà plus Shishak, n'est-ce pas? Mais il faut encore avoir une explication pour le K, ou plutôt un Q à la fin. Et cela, on peut expliquer par le fait que l'écrivain biblique a hébraïsé. Ça existe ce terme, hébraïsé, le nom égyptien. Ça arrive parfois, dans la Bible, qu'on essaye de rendre un nom étranger dans une forme qui veut dire quelque chose en hébreu. Et il existe en hébreu un verbe qui, un verbe shashak. Ça veut dire écraser ou fouler au pied ou au-dessous les roues d'un wagon de guerre. Donc, Shishak, dans les oreilles hébreues, veut dire celui qui écrase. Et puisqu'il est venu pour piller Jérusalem, ça va très bien. Et d'ailleurs, on a trouvé aussi une inscription de Ramsès II en Égypte où il parle de ce fait qu'il écrase ses ennemis. Donc, le terme est même trouvé en rapport avec Ramsès à l'époque. Donc, c'est un nom qui exprime très bien la réalité, et cela nous confirme encore plus que Ramsès II était le Shishak de la Bible. Mais pour continuer, nous allons maintenant à Thèbes, dans la Bible c'est Noamon, pour visiter le Ramessé, donc le temple de Ramsès II. Et là, il y a seulement un bloc qui nous intéresse vers le pylon nordique. Alors, si vous allez une fois à Thèbes voir le Ramessé, il faut en tout cas regarder ce bloc-là. Parce que là, il y a une inscription intéressante. Il est dit, comme vous le voyez sur votre feuille, la ville que le roi, c'est-à-dire Ramsès II, laissa piller à l'an 8, Shalem. Alors, qu'est-ce que c'est Shalem? Nous savons que Ramsès II a pillé une ville qui s'appelait Shalem. Alors là, vous avez une explication quant au nom de Jérusalem. Shalem, c'est la forme abrégée en hébreu, comme nous le trouvons en Genèse 14, 8, et aussi dans le psaume 76, verset 2. La pleine forme, c'est Yerushalem. Yeru, ça veut dire ville ou fondation de la paix. Shalem, c'est la paix. C'est parenté avec shalom. Le verbe, c'est shalam, n'est-ce pas? Shashak. Shalam, les verbes on prononce AA dans la forme du lexique. Alors, Shalem, ça doit être Jérusalem. Et en plus, cette inscription, elle est écrite dans un égyptien mauvais, en quelque sorte, parce que il est dit littéralement la ville que le roi a laissé piller à l'an 8. La ville, Shalem. Et en bon égyptien, on ne répète pas le mot « ville ». Mais là, c'est répété « ville Shalem ». Mais puisque c'est « Yerushalem », c'est à cause du fait qu'il s'agit vraiment de cette fondation de la paix. Ici, vous voyez en hiéroglyphe, donc ce mot intéressant pour nous, Ramsès II a effectivement attaqué Jérusalem, Shalem. Là, vous voyez le temple fameux à Abu Simbel. Là, il y a aussi une description de l'attaque de Ramsès II. Et on voit même une image comme il attaque Jérusalem, ici. L'égyptologue, aussi un Anglais, Kenneth Kitchen, c'est un des plus grands égyptologues, d'ailleurs un vrai croyant. Lui, il a, sur la base d'autres inscriptions de Ramsès II, il a pu montrer la liste d'attaques et de guerres de Ramsès II. Et ce sont ces villes-là. Donc, on peut montrer que Ramsès II, il n'a pas seulement attaqué Jérusalem, mais effectivement le sud, la Judée. Ce qui est en accord avec le texte de Chronique 12 avec Shishak. Nous concluons donc que Ramsès II, d'après la nouvelle chronologie, n'est plus le pharaon, comme on croyait, de l'Exode, mais c'est le pharaon Shishak qui, au Xe siècle, a pillé Jérusalem. Voilà, Jérusalem, pillée par Shishak, Ramsès II. Alors, sur cette base, nous allons plus loin, parce que nous nous intéressons à Israël en Égypte. Et tout d'abord, selon cette nouvelle chronologie, je l'établirai dans la deuxième partie encore plus. Nous essayons de chercher maintenant Joseph en Égypte. Donc, puisqu'on doit tout changer, selon la nouvelle chronologie, Joseph était vizir sous le pharaon Amenemhet III. C'est d'ailleurs le plus puissant pharaon de la 12e dynastie. Le plus puissant du Moyen Royaume. Vous dites comme ça, Moyen Royaume, ou vous avez un autre terme qui peut m'aider? Oui, il y a quelques termes là que je m'excuse pour tous les germanismes. Alors ici, vous voyez Amenemhet III, le pharaon à l'époque de Joseph. Et on le voit toujours, j'ai mis dans une autre suite. Je voudrais d'abord parler de l'Exode et nous remontons après. Ce n'est pas Amenemhet, ça c'est un autre pharaon. Nous allons voir. Donc, prenez les notes intitulées par l'Exode. Nous allons d'abord, selon la nouvelle chronologie, vers la 13e dynastie. Et ça doit être le temps de Moïse. Et j'explique pourquoi. On a donc la transmission d'un juif d'Alexandrie vers la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ. Ce juif s'appelait Artapanus. Je pense en français, vous le prononcez un peu différemment. Artapan ou je ne sais pas. Et lui a écrit une histoire juive. Alors, c'était un juif au 3e siècle avant Jésus-Christ qui avait accès assurément à des textes égyptiens que nous ne possédons plus. En tout cas, lui, il nous dit dans son récit grec que le pharaon qui avait éduqué Moïse, il s'appela Renéphrès. La prononciation grecque. Et ça fait en égyptien Ra-Nefer-Re. Et dans toute l'histoire de l'Égypte, nous trouvons seulement un seul pharaon avec ce nom Ra-Nefer-Re. Et c'est celui-là. Donc, le pharaon qui a éduqué Moïse comme petit enfant. Il a instruit dans toute la sagesse, laissé instruire dans toute la sagesse des Égyptiens. C'est un papyrus de l'Égypte qui contient le nom de Ranéphérès, Ranéphéré, ce pharaon, à l'époque de Moïse. Et nous nous demandons maintenant où se trouvait le peuple d'Israël à l'époque, lorsqu'ils étaient en Égypte. Nous savons depuis la Bible qu'ils étaient à Goshen. C'est donc une région au nord de l'Égypte, au delta, et ils ont bâti Pithom et Ramsès. Ramsès, c'est là où est indiqué le nom plus ancien, Avaris. Alors là se trouvait le peuple d'Israël en esclavage. Voilà un plan un peu plus détaillé d'Avaris, où était la colonie d'Israël en Égypte. Vous voyez, là, la ville a été agrandie plus tard et ça s'est devenu la grande ville qui est connue sous Pi, Ramsès ou Ramsès, la ville de Ramsès. Là, ils ont vécu. Est-ce qu'on trouve des traces dans cette époque de la présence d'Israël en Égypte? Eh bien, il faut encore que je mentionne que Joseph Flave, l'histoire juive au 1er siècle après Jésus-Christ, il cite un plus ancien égyptien, Manetho, et Manetho avait écrit à l'époque de Toutimée, l'Égypte fut frappée par une plaie divine. Toutimé, prononciation grecque, toutimeus en grec, est égal au nom égyptien Dedoumosé. Et Dedoumosé était un pharaon, donc après Ranéphérès, et à la fin de la 13e dynastie. Donc ça devrait être le pharaon de l'Exode. De lui, j'ai pas une photo. Alors, nous allons maintenant à Avaris pour trouver les traces d'Israël en Égypte. Il y a quelques années seulement, une expédition autrichienne a commencé à faire des fouilles ici. Alors au début, on voyait que ça. Pas très intéressant. Mais nous allons voir sur ce qu'ils ont trouvé. Ils ont fait un plan d'Avaris, de cette ville. Et ils ont trouvé que toute la ville, ça c'est seulement une partie de cette ville, est composée de cette façon. On trouve des grandes maisons avec plusieurs chambres. Autour, il y a plusieurs cours pour des menus bétail. Ensuite, c'est entouré par plusieurs maisons, seulement à une seule chambre. Donc, il semble qu'il y avait toujours un patriarche qui avait une grande maison
Et les fils, avec leur famille, étaient dans des maisons un peu plus petites et simples. Et on trouve aussi partout des tombeaux où ils ont enseveli les gens. Alors ici, vous voyez un tombeau d'animaux. Cela est intéressant pour la raison suivante. Ce sont des ânes ici. Ça ne nous intéresse pas tellement. Mais ce qui est plus intéressant, c'est là, c'est un mouton. Et voilà aussi un mouton. C'est pour la première fois en Égypte qu'on trouve des moutons. Et nous savons, à partir de l'histoire de la Bible, de Joseph, lorsque Jacob, les frères de Joseph, sont venus en Égypte, et la Bible nous dit qu'ils étaient des bergers. Et pour les Égyptiens, les bergers sont une abomination. Donc des bergers de menu bétail. N'est-ce pas? Ils élevaient des moutons et des chèvres. Alors, c'est pour ça qu'on les a mis un peu à l'écart à Goshen. Mais ici, nous trouvons à Varis, à Tel et Daba, comme on l'appelle aujourd'hui, on trouve pour la première fois des moutons. Donc ça correspond à une civilisation qui n'est pas du tout égyptienne, mais qui introduit quelque chose qui était en fait une abomination pour les Égyptiens. N'est-ce pas? La famille de Jacob, les frères de Joseph, c'était des Bédouins qui ont vécu par l'élevage de menu bétail. Et comme ça, ils sont venus en Égypte, ils ont développé ici, à Ramsès, à Avaris, à Tel et Dava, leur propre culture. Et effectivement, tout ce qu'on a trouvé dans ces couches-là montre une civilisation non égyptienne, mais qui est bien, assez bien adaptée à la vie égyptienne. On pourrait bien comprendre, n'est-ce pas, Joseph, qui était le premier de la famille en Égypte, il s'est bien adapté à la vie de l'Égypte. Et lorsque sa famille est venue, ils ont vu Joseph, comme il s'est adapté, alors ils se sont donné plus de peine pour s'adapter à la vie en Égypte. Ici, vous trouvez un tombeau typique de cette époque. Et voilà, toujours la tête est orientée vers l'est, vers le pays de Canaan. Donc un peuple qui avait des espérances, mais des espérances qui n'étaient pas enracinées en Égypte, mais dans un autre pays à l'est. Ils savaient de leur père Abraham que le jour va venir où ils vont sortir de l'esclavage pour aller à Canaan, dans le pays de Canaan. Ah, ça, c'était leur façon de les mettre. Donc, toujours les pieds. On ne peut pas déduire quelque chose de très profond. Mais en tout cas, ce qui est typique, c'est la tête vers l'est. D'ailleurs, en rapport avec ces tombeaux, on constate à Avaris qu'il y a énormément, un pourcent horrible d'enfants qui sont ensevelis. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas très bien distinguer les squelettes d'un garçon. Donc de petits bébés, si c'est un garçon ou une fille. Ça nous intéresserait, n'est-ce pas? Parce qu'en Exode 1, c'est l'époque où le Pharaon avait dit qu'il faut jeter tous les garçons au Nil. Donc c'était un holocauste, le premier holocauste fait à Israël, mais particulièrement au mâle. Là, on a mis les enfants pour les tuer dans le Nil et après on les a ensevelis. Mais ce qu'on peut constater, les tombeaux des adultes, là on voit clairement que le pourcentage des femmes est clairement plus haut que le pourcentage d'hommes. Et par ça, on peut indirectement déduire qu'il y avait, semble-t-il, plus de garçons comme enfants, comme bébés, qui sont morts. Ici, vous voyez une représentation égyptienne, pas de cette époque, mais qui montre des esclaves en faisant leur travail dur et pénible. Cela nous donne une idée comme c'était pour Israël en Égypte. Vous voyez, ils ont dû faire ces briques pour bâtir Pitom et Ramsès. Ça nous donne un peu une idée. Et ils ont été battus fortement. C'est aussi une représentation de plus tard, mais ça nous montre un peu la situation d'Exode 1. Voilà un modèle d'esclave en Égypte, esclave de maison, de l'époque où Israël était en Égypte. Alors, ça nous donne une bonne impression, une bonne idée comment les esclaves à cette époque, comment on doit les représenter. Ici, nous avons le papyrus Brooklyn, papyrus très intéressant parce qu'il nous donne de cette époque, la 13e dynastie, une liste d'esclaves. On trouve presque 100 noms propres d'esclaves. Et ce qui est frappant, c'est le fait qu'il y a un très haut pourcentage de noms sémites. En plus, nous trouvons des noms qui sont absolument hébreu. Par exemple, on trouve le nom Issachar, nom d'un des tribus, enfin, un des patriarches. Nous trouvons le nom de Asher, aussi un des patriarches, comme nom propre, et aussi Shifra, comme nom d'une femme. C'est d'ailleurs exactement ce nom que nous trouvons en Exode 1 pour une des femmes sages, à l'époque où on a tué les enfants. Alors, ici, vous avez les deux passages où c'est noté Asher et Shifra. Donc, ça nous montre qu'il y avait, à cette époque, effectivement, une présence hébraïque, pas sémitique et hébraïque, en Égypte, en esclavage. Voilà ce qu'on a trouvé à Avaris, donc des restes de la culture israélienne en Égypte. Ici, voilà des armes. Donc, ce n'était pas seulement un peuple qui savait élever du menu bétail, mais c'était aussi un peuple qui savait faire la guerre. Ce qui est aussi important dans l'histoire biblique, lorsqu'on voit comme le peuple d'Israël a dû faire était confronté avec des guerres dans le Sinaï déjà et finalement lorsqu'il s'agit de la conquête du pays de Canaan. Voilà un peu la poterie de cette culture unique. Je ne vais pas vous faire dormir si vous n'aimez pas la poterie. Mais peut-être ça peut vous donner des idées si vous faites vous-même de la poterie. Voilà, il y a quand même des idées assez géniales. Là, un poisson comme une vase. Mais lorsqu'on arrive à la fin de ces couches d'avarice de la 13e dynastie, donc à l'époque de Dedumose, l'équipe autrichienne fut frappée par un horreur. Partout où on a fait des fouilles, on trouve finalement des tombeaux de masse où les corps étaient mis simplement en désordre, en vitesse de temps. Et juste après, avarice a été abandonnée par une fuite et pendant quelque temps délaissée. Qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas, nous avons déjà eu le témoignage de Manetto que à l'époque de Dedumose, l'Égypte fut frappée par une plaie divine. Et partout on trouve ça où on a fait des fouilles. Ce sont donc les couches qu'on appelle en archéologie l'âge de la bronze moyenne 2B. Et 2A, pardon, 2A. C'est ça, donc, maintenant, d'après la nouvelle chronologie, la culture d'Israël en Égypte. C'est d'ailleurs pour la première fois qu'on a fait des recherches si conséquentes et détaillées de ces couches de la bronze moyenne du A en Égypte. Et partout où on a fait, ça finit avec ces masses, ces tombeaux de masse. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous connaissons le texte d'Exode 12. La dernière plaie était le fait que l'Éternel lui-même est venu en Égypte pour frapper les premiers-nés de chaque famille. Mais l'Éternel a donné à Moïse donc la tâche d'enseigner les Israéliens de prendre un agneau dans la maison et de le sacrifier, de mettre le sang sur les poteaux de la porte. Et l'Éternel dit, « Lorsque je passerai par l'Égypte et je verrai le sang, je passerai de devant de vous. » Le terme hébreu pour « passer », c'est « passar ». Et ça donne le nom de la fête, « Pessah », c'est la Pâque. C'est le terme hébreu pour Pâques. L'Éternel épargne du jugement en passant devant le sang de l'agneau. Alors, Israël, dans sa jeunesse, a appris en Égypte que tout le monde devrait être jugé par un Dieu saint. Parce qu'eux, ils auraient aussi dû être jugés. Ils n'étaient pas meilleurs que les Égyptiens. Mais lorsqu'ils ont pris un agneau, lorsqu'ils ont pris le sang et l'ont mis sur le poteau, et s'ils ont, dans la famille, mangé de l'agneau, s'ils ont approprié l'agneau, ils ont été épargnés par grâce, par remplacement. Voilà, c'est en allemand, malheureusement, le texte d'Exode 12, comme à minuit, l'Éternel a frappé tous les premiers-nés, depuis le premier-né du Pharaon sur le trône jusqu'au premier-né de celui qui était dans la prison, etc. Tout l'Égypte a pleuré, a élevé une lamentation car il n'y avait aucune maison dans laquelle il n'y avait pas un mort. C'est horrible de voir ces images, n'est-ce pas? Mais cela nous montre, comme cette histoire, c'était pas un mythe. C'est quelque chose qui s'est passé dans le temps et dans l'espace. Cet événement nous est donné comme exemple pour nous montrer une vérité plus profonde de l'histoire sainte. Donc, ça, c'est déjà un avant-goût de la venue du Seigneur Jésus, lui est mort à la croix pour nous épargner du jugement éternel de Dieu. Et lui, l'agneau de Dieu, l'innocent, le saint, il a souffert au dehors de la ville de Jérusalem sur le rocher de Golgotha. Son sang a coulé sur le rocher, et sur cette base, chacun qui voit, je ne suis pas mieux que les Égyptiens, meilleur que les Égyptiens d'autrefois. Je devrais aussi être jugé par Dieu. Mais je crois en le sang de Christ. Je crois en le sacrifice de Christ sur Golgotha. Je crois que lui a subi le jugement à ma place dans les 3 heures des ténèbres lorsqu'il a été abandonné de Dieu. Et alors là, on s'approprie la Pâque. On mange de l'agneau de Dieu en quelque sorte. Pas seulement goûter, manger. J'ai oublié de changer. Je veux donc là citer d'Ésaïe 53. Quelqu'un peut me passer ma Bible française? Lisons l'Ésaïe 53. C'est un chapitre qui parle du Messie souffrant en passé prophétique. D'ailleurs, les anciens rabbins ont appliqué ce passage au Messie souffrant, au Messie fils de Joseph. Ils ont appelé le Messie souffrant le Messie fils de Joseph parce qu'il devrait souffrir comme Joseph a souffert de par ses frères. Et même dans le Talmud, on trouve cette explication d'Ésaïe 53. Et voilà, nous lisons au verset 4. « Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et maintenant, il a été opprimé et affligé. Et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il est ôté de l'angoisse et du jugement et sa génération qui la racontera, car il a été retranché de la terre des vivants. À cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. Et au verset 10, « Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir. Il l'a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence, il prolongera ses jours, et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. » Et je finis au verset 12, c'est pourquoi je lui assignerai une part avec des grands, avec les grands, et il partagera le butin avec les forts, parce qu'il aura livré son âme à la mort, et qu'il aura été compté parmi les transgresseurs, et qu'il a porté le péché de plusieurs, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Alors, la vérité historique de la Pâque en Égypte, de la 10e plaie en Égypte nous explique encore mieux la vérité fondamentale du sacrifice de Christ. Lui, comme agneau de Dieu, a donné son sang pour nous épargner du jugement éternel. Voilà. Un passage en Romains 3. Verset 23, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Voilà, le jugement nous est sûr. Mais nous trouvons la solution de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Et en 1 Thessaloniciens 1, nous lisons de Jésus qui nous sauvera de la colère de Dieu. 1 Jean 1, verset 7, le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tous nos péchés. Voilà. Après avoir trouvé Moïse, les Israélites et leur esclavage en Égypte, nous remontons. Alors, c'est pour ça, maintenant, nous allons parler de Joseph en Égypte. Et je reviens en bas de la page première, de la première page. Selon la nouvelle chronologie, Joseph était vizir sous le pharaon Amenemhet III. Et quelques années avant ce pharaon, on trouve cette représentation en Égypte. Ce sont des Midianites, des caravanes Midianites qui descendent en Égypte pour faire du commerce avec l'Égypte. C'est d'ailleurs la seule période où on trouve cette représentation en Égypte. Intéressant. Alors, vous voyez maintenant un peu plus en détail comment il faut se représenter les caravanes midianites ou madianites? Midianites, n'est-ce pas? Dans la Bible, peut-être pour une future Bible pour enfants, on pourrait inclure des images comme ça. Ils sont authentiques. Joseph était haï de ses frères. Et voilà, nous sommes ici dans la région de Dothan. Là, les frères de Joseph ont gardé leur menu bétail. Et finalement, Jacob a envoyé Joseph à voir comment ça va pour eux. Il a envoyé son fils bien-aimé pour aller à Dothan. C'est d'ailleurs dans le territoire occupé de la Cisjordanie actuelle. Mais cette région, c'est le cœur du pays promis pour Israël. Il est venu ici, et lorsqu'ils ont vu Joseph, ils ont pensé, « Ah, il vient de nouveau !» Celui qui songe toujours, et ils ont pensé, c'est la possibilité enfin pour pouvoir le tuer. Mais vous connaissez l'histoire, comme ils ont finalement tué un animal, ils ont mis dedans le vêtement de Joseph, et Joseph lui-même, ils ont vendu aux Midianites. Ils ont montré les habits de Joseph à son père. Est-ce que tu connais ça? Nous avons trouvé Jacob. Convaincu, Joseph est mort. Mais nous savons, il a été vendu aux païens, on peut dire, aux Midianites, et eux, ils l'ont vendu en Égypte. Et voilà, c'était l'époque d'Amenemhet III. Et ce pharaon, sur tous les statues qu'on a trouvées, est représenté comme un pharaon triste. Vous voyez ses lèvres. Et les oreilles sont aussi un peu particulières. Ils sont toujours mis à l'extérieur comme ça, comme s'il voudrait écouter les problèmes et les difficultés de son peuple, les soucis de son peuple. Et voilà, c'était dans cette époque où Joseph était dans la prison. Mais quelqu'un pouvait dire sur Joseph, c'est quelqu'un qui sait interpréter des rêves. Alors, Amenemhet III demande que Joseph devrait interpréter son rêve qu'il a eu, un rêve qu'il a profondément ému. Voilà. Qu'est-ce qu'il a vu, Amenemhet? Il a vu le Nil. Et du Nil sortaient 7 vaches, bien gros, beaux, belles. Et Joseph pouvait interpréter, cela signifie qu'il y aura 7 ans où il y aura l'abondance en Égypte. Et dans la partie où il a rêvé, qu'après cela, 7 vaches maigres et horribles sont sorties du Nil, il a pu interpréter, ça signifie qu'il y aura une grande famine pendant 7 ans qui viendra sur l'Égypte. Eh bien, il faut que j'explique quelques détails concernant des famines en Proche-Orient. Parce que cette époque de Joseph avec la famine, c'est une famine pas seulement en Égypte, mais aussi en Canaan. C'est pour ça que les frères de Joseph, finalement, sont descendus en Égypte. Eh bien, ça se peut qu'au Proche-Orient, il n'y a pas de pluie, et ça donne, en Canaan, des famines. Mais toujours à ce moment-là, on avait la possibilité d'échapper en Égypte. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a plus de pluie en Égypte. 96% de l'Égypte, c'est du désert. Mais parce qu'on a le Nil. Et le Nil est la source de la vie en Égypte. C'est pour ça qu'ils l'ont adoré comme un dieu, les Égyptiens. Parce que le Nil reçoit son eau du cœur de l'Afrique. Et même lorsqu'il y a des famines au Proche-Orient, alors on a de l'eau en Égypte. Et en automne, le Nil va remonte sur ses bords et apporte donc de la mouille, on dit, ou de la boue fertile sur le terrain. C'est pour ça qu'on peut donc semer aussi lorsqu'il n'y a pas de pluie en Égypte. Mais il y a deux possibilités pour qu'il y ait aussi des famines en Égypte, parfois. C'est lorsque il y a trop peu d'eau dans le Nil. Ça arrive aussi. Et ça apporte une famine. Mais une deuxième possibilité existe. Ça veut dire lorsque le Nil apporte trop d'eau. Ça signifie aussi famine. Pourquoi ? Vous avez ici donc le Nil qui est sorti sur ses bords. Et lorsqu'il y a trop d'eau, ça veut dire lorsque le Nil monte plus que 18 mètres de hauteur. Ça dure trop long jusqu'à ce que l'eau est redescendue dans le Nil. Et seulement après, on peut commencer à semer. Et lorsqu'on rate le bon moment pour semer, c'est trop tard et ça signifie famine. Donc, des niveaux d'eau trop bas et trop hauts sont une indication sûre pour des famines en Égypte. Et maintenant, justement pour la période d'Amenemhet, on a des inscriptions authentiques de la hauteur du Nil. J'ai expliqué, des niveaux de 18 mètres sont des hauteurs très bonnes. Donc, au début de son règne, on a en tout cas une période où on pouvait beaucoup moissonner. Mais dans une deuxième partie, on voit, là où on a des inscriptions, qu'il y avait des très grands problèmes. N'est-ce pas ? Vous voyez comme c'est beaucoup trop haut. C'est une indication sûre pour des famines en Égypte. Et maintenant, nous comprenons encore mieux le rêve du pharaon, n'est-ce pas ? Et les vaches grosses et les vaches maigres sont sorties du Nil. C'est-à-dire, les deux indiquent des niveaux du Nil, des hauts des niveaux du Nil. Mais la deuxième fois, ça indique le Nil qui apporte trop d'eau, et avec ça, la famine. C'est pas le rêve joue exactement avec la situation en Égypte. Alors, Joseph, par cela, il est devenu le deuxième homme après le Pharaon. Il a régné sur l'Égypte dans l'époque où ses frères l'ont rejeté et vendu aux païens. Et cela nous parle déjà à l'avance de l'histoire sainte. N'est-ce pas? Dieu le Père a aussi envoyé son Fils bien-aimé pour voir comment ça va pour ses frères en Israël. Le Seigneur Jésus, le Messie, est venu pour le bien d'Israël. Mais ils l'ont haï comme les frères de Joseph ont haï Joseph. Et finalement, ils l'ont vendu, trahi aux nations. Les Romains l'ont cloué, l'ont tué. Comme Joseph a dû descendre dans la prison, le Seigneur Jésus est descendu dans le tombeau. Comme Joseph a pu sortir du tombeau, le Seigneur Jésus, le troisième jour, est ressuscité. Et il a été vu par plus que 500 témoins oculaires. Et depuis, le Seigneur Jésus a commencé à régner sur des millions de païens, de non-juifs, n'est-ce pas? C'est depuis cette période que des millions, pendant les 2000 ans passés, ont reconnu le Sauveur en le Seigneur Jésus, celui qui peut donner la nourriture, le pain de Dieu. Le pain de Dieu. Voilà, ça nous raconte cette histoire. Mais l'histoire de Joseph ne s'arrête pas à ce moment-là. Parce que plus tard, les frères de Joseph ont dû passer par une grande tribulation. Mais dans la grande tribulation, ils ont retrouvé leur frère plus tard. Alors, nous allons voir, nous retournons à Avaris pour voir les traces de la famille de Joseph. Parce que dans le temps de la famine, les frères de Joseph sont venus en Égypte et Joseph les a traités comme des espions. Qu'est-ce que vous faites ici? « Ah non, nous sommes des hommes très honnêtes. » Ah oui, ils savaient combien ils étaient honnêtes. Alors il dit « Non, je ne crois rien. Est-ce que vous avez encore d'autres frères ?»« Pourquoi ils demandent ça? Nous sommes déjà assez, n'est-ce pas? Assez de frères ici. Mais pourquoi ils demandent ça ?»« Oui, nous avons encore un petit. » »« Alors la prochaine fois, vous apportez ce petit. » Non, c'est impossible. On ne peut pas faire ça à notre père parce que il a déjà perdu un fils et c'était terrible pour lui. Non, impossible. Et Joseph réalise qu'il y a eu un changement à l'intérieur de ses frères. Une deuxième fois, ils n'auraient plus voulu faire ce qu'ils ont fait à lui. Mais il se révélait pas encore. Il devait vraiment passer par les exercices intérieurs, par des difficultés profondes. Et finalement, le moment est venu où Joseph les a pris à l'écart et il a dit, « Je suis Joseph, votre frère. » Et tous ces hommes forts, ils ont commencé à pleurer. Et ils se sont mis à genoux devant Joseph. Et Joseph a dit, « Est-ce que mon père, il vit encore ?» Cherchez-le, venez ici habiter. Et voilà, ils sont allés habiter à Goshen. Et nous essayons de retrouver dans les couches plus profondes, des couches que nous connaissons maintenant, les traces de la famille de Jacob. Eh bien, avarice, donc la toute première partie de la ville de Ramsès, le pire Ramsès, a été fondée avec une petite colonie où il y avait un palais comme cela. C'est un palais au style du pays de Canaan. Et autour, il y avait à peu près 11 maisons plus petites. Avec, n'est-ce pas, les cours pour le menu bétail. Ça joue bien, n'est-ce pas? Donc, il semble que c'était Jacob, venant du pays de Canaan, qui a bâti un petit palais dans le style de sa région, et autour, les frères de Joseph ont habité. Mais Joseph, après avoir accompli son tâche pour sauver l'Égypte et sauver ses frères, il a bâti après sa mort sur la maison de son père Jacob un palais dans le style égyptien. Et c'est dans la prochaine couche on trouve ce palais-là. Il semble que c'est le palais de Joseph. En tout cas, ce qui est intéressant, il y a ici une cour avec des colonnes. Et à ce côté-là, il y a 12 colonnes, 12 pieds excessivement grandes. En tout cas, c'est intéressant si on pense que Jacob avait 12 enfants, 12 garçons, les 12 patriarches du peuple d'Israël. En plus, on voit deux maisons qui ont été ajoutées à une époque plus tard, ici. Deux maisons absolument identiques. Eh bien, dans la Bible, nous lisons que Joseph avait deux fils, Éphraïm et Manassé, qui sont nés en Égypte. En plus, on a aussi cherché dans les différentes chambres et on a trouvé la chambre de coucher avec le lit le plus grand qu'on a jamais trouvé en Égypte. Ce qui va bien pour quelqu'un qui a des rêves, n'est-ce pas? Et qui sait interpréter les rêves. Alors, pour voir cela plus en détail, nous avons ici une représentation d'une maquette de ces Autrichiens et on a ajouté sur ordinateur un peu les alentours, n'est-ce pas, un peu dans le style de Jurassic Park. Mais pour nous donner une idée du palais de Joseph en Égypte à Goshen. Et vous voyez, dans le jardin, il y a ici une pyramide, un tombeau. En plus, il y a encore d'autres, encore 11 tombeaux dans ce jardin, mais seulement un tombeau pour une personne particulièrement honorée. Parce qu'à l'époque d'Amenemhet, c'était une gloire excessivement haute d'avoir un tombeau de pyramide. Les Autrichiens ont fait des fouilles à cet endroit-là pour trouver ce tombeau. Voilà, c'est donc un tombeau en trois parties. La pyramide qui se trouve au-dessus du tombeau souterrain. Et devant la pyramide, il y a une sorte d'entrée, on appelle ça une chapelle. Bon, mais en tout cas, d'avoir en plus de la pyramide encore une chapelle était encore un honneur tout à fait particulier à l'époque. On peut se représenter ce tombeau à peu près comme ça. C'est une représentation d'un tombeau plus complet qu'on a trouvé à un autre endroit, dans le même style. Ce qui concerne ce tombeau, il était complètement vide. Mais, n'est-ce pas, il y a tant de tombeaux en Égypte qui ont été vidés par des gens qui aimaient l'argent et l'or. Mais ces gens-là, qui s'intéressent pas pour l'archéologie, mais pour les trésors, ils laissent les momies en bas, les coffres en bois, la poterie, ça ne les intéresse pas, ils s'intéressent aux vrais trésors dans leurs yeux. Mais ici, ce tombeau-là était vidé complètement. Pas de poterie, pas de coffre, rien. Il y avait seulement encore des bouts d'une statue qu'on a trouvée. Ici, vous voyez la tête. Mais ce qui est intéressant, la statue devait être une statue d'une hauteur de 3 mètres. Donc, c'est une statue colossale, comme on dit. Et à l'époque, c'était une gloire excessive d'avoir une statue colossale. Et ça, comme quelqu'un qui n'est pas un pharaon. Mais vous voyez ici, la tête est cassée et les traces sont absolument claires que ça a été cassé par violence, cette statue. Eh bien, je vais montrer que c'est la statue de Joseph. On peut s'imaginer, lorsque les Israélites sont partis de l'Égypte, après la 10e plaie, tout d'un coup, les Égyptiens pensent, mais c'est quand même dommage qu'on les a laissés partir. Ces esclaves-là, ils ont quand même bien travaillé. Alors, on va les rechercher. Et vous savez comme ça a fini avec une catastrophe, de nouveau. Eh bien, les Égyptiens qui retournent en Égypte, ils ne pouvaient pas se venger à Moïse. Ils ne se pouvaient pas venger à n'importe qui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont aimé faire? Au moins, ils ont encore trouvé une statue colossale qu'on pouvait frapper avec violence. Alors, ça, c'est une interprétation qui jouerait. Est-ce qu'il faudrait peut-être faire une pause maintenant? Oui. Et on continue juste après avec la statue de Joseph. Alors, voilà une partie de cette statue colossale où on voit encore une sorte de bâton que portait cette personne. Cela est intéressant pour nous parce que ce bâton-là d'un berger était en Égypte le signe en hiéroglyphe qu'on mettait derrière, lorsqu'on parlait d'une personne venant du pays de Canaan. Donc cela indique que cette statue ne représente pas un vrai Égyptien, mais quelqu'un qui vient de la région de Canaan, Syrie. On a trouvé encore un œil, c'est-à-dire la pierre précieuse a été ôté, mais au moins ça a resté. Vous voyez le visage depuis devant. Il y a encore des restes de couleurs. On a pu voir que le visage avait une couleur comme on représente des étrangers, donc une couleur claire. En contraste avec les Égyptiens qui sont représentés plutôt avec un brun foncé. Donc c'est un étranger, cette personne. Et à l'aide d'ordinateur, on a pu reconstituer le visage. Voilà, c'est pas Mireille Mathieu. Ça devrait être Joseph. Et voilà. En voyant cette image, on peut encore une fois penser à cet événement lorsque Joseph s'est révélé à ses frères. « Je suis Joseph, votre frère. » Tout d'un coup, cet Égyptien parle hébreu. N'est-ce pas? Et entre eux, ils ont discuté leurs problèmes en hébreu, tout en pensant que cet Égyptien, il ne comprend pas un seul mot. Il a tout compris. Mais le moment est venu, après cette grande détresse, où il s'est révélé à ses frères et ils ont commencé à se lamenter. Et voilà, tout cela nous amène à penser à des passages en Zacharie où le prophète parle de la venue du Messie dans l'avenir. Je lis le verset 12, chapitre 12, verset 10, où il est dit « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé. » Et la réaction d'Israël, « Et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Il y aura de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. En ce jour-là, il y aura une grande lamentation à Jérusalem. » Ensuite, verset 12, « Et le pays se lamentera, chaque famille à part. » Et tout le pays, donc, se lamentera. Dans le Talmud, il y a un passage où on explique ce passage comme parlant du Messie, fils de Joseph. Donc, le Messie souffrant. Dans le Talmud. Alors, ils regarderont sur lui. Et d'où cette histoire de Joseph nous montre, donc, qu'il n'y a pas, comme dans le judaïsme, on a pensé qu'il y aurait deux Messies. Un Messie qui souffre, un Messie qui règne. Parce qu'on ne pouvait pas mettre ensemble tous ces passages qui d'un côté parle d'un Messie méprisé et d'autre part d'un Messie qui règne sur toute la terre comme le Fils de l'homme. Eh bien, l'histoire de Joseph nous montre, il a souffert, mais après, il est devenu le roi sur des païens, et après, il a été reconnu par ses frères, et il a régné et sur les païens, et sur ses frères. Donc, le Messie, fils de David, comme on appelle dans le judaïsme le Messie qui régnera, c'est la même personne, simplement en deux phases. Et d'ailleurs, c'est quand même intéressant de constater le fait, comment s'appelait le père juridique de Jésus? Joseph. C'est pour ça qu'il était connu comme Ben Yosef, fils de Joseph. Et il était, par Marie, il était un descendant direct, aussi biologiquement parlé, de David. Donc, par Marie, il était vraiment Ben David. Donc, en sa personne, s'unit ces deux aspects du Messie, Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David. Et ce qui est remarquable, lorsque l'ange annonce à Joseph la naissance du Sauveur, il dit, tu l'appelleras Jésus, Yeshua, donc l'Éternel sauve, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Donc à Joseph, l'ange annonce le Messie souffrant. Et lorsque l'ange Gabriel va aller vers Marie, en Luc 1, il lui dit, il s'asseyera sur le trône de son père David et il régnera de l'éternité en éternité. Donc à Marie, l'ange annonce le Mashiach ben David, celui qui régnera. Mais c'est la même personne. Et ce qui est aussi remarquable, Joseph est mort avant que le Seigneur a été cloué à la croix. Parce que dans les évangiles, tout d'un coup, lorsque le Seigneur souffre, on ne trouve que sa mère. N'est-ce pas? Et la mère, dans ce deuil, a dû aller vers Jean le disciple. parce qu'il n'y avait plus de mari. Donc Joseph n'a jamais vu l'annonce, l'accomplissement de l'annonce de l'ange. Et Marie, cette jeune fille à laquelle l'ange avait annoncé le Messie qui règne, elle n'a jamais dans sa vie vu le Messie régner. Donc les deux avaient reçu une promesse qu'ils n'ont jamais vue se réaliser, mais qui se réalise l'une après l'autre. Je suis Joseph, votre frère. Une fois dans un taxi à Jérusalem, j'ai discuté sur le Messie et puis j'ai expliqué au chauffeur que je crois que le Messie est déjà une fois venu dans le passé et je crois que c'est le même qui va venir. Et j'ai cité Zacharie 13 et j'ai dit, comme c'est écrit là, « Vehibitu elayet asher dakaru » et ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. C'est le même. Donc, ils vont passer par une grande tribulation et Zacharie 13 encore, 8, « Il arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel, le pays de Canaan, que deux parties y seront retranchées et expireront. » Mais un tiers y demeurera de reste, et le tiers je l'amènerai dans le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, et moi je leur répondrai. Je dirai, c'est ici mon peuple. Et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. Voilà la statue restituée sur ordinateur, Joseph, celui qui est devenu le sauveur pour les païens et le sauveur de ses frères. Et cela, le Seigneur Jésus a accompli par la croix en allant dans la prison du tombeau. Et voilà, vers ce rocher de Golgotha, on trouve encore aujourd'hui dans le rocher des tombeaux du type du premier siècle. C'est exactement ce type-là, ce qui nous montre un peu comment il faut se représenter le tombeau de Christ, maintenant vide, régnant sur des millions de non-juifs. N'est-ce pas? L'évangile a été annoncé pendant les 2000 ans passés, dans le monde entier, sur tous les 5 continents, et la plupart du peuple juif, dans cette période, n'a pas reconnu le Messie. Bien sûr, il y a toujours eu un résidu qui a reconnu. Et aujourd'hui, il y a peut-être 350 000 juifs qui ont reconnu le Sauveur en le Seigneur Jésus. Mais le moment va venir où Jérusalem passera par la plus grande tribulation. Et cela, donc, se relie maintenant, cette ancienne histoire, avec ce que nous vivons aujourd'hui. Nous voyons comme le combat pour Jérusalem a commencé et est un danger pour le monde entier. Ça, c'est le passage que nous avons lu en Zacharie 13. Tout le pays passera par la grande tribulation, mais le résidu d'Israël en sortira et ils verront, comme Zacharie 14 le dit, les pieds du Messie seront sur le mont des Oliviers à l'est de Jérusalem. Et là, ils regarderont sur celui qu'ils ont percé. Alors, c'est la dernière fois que je montre Joseph. Et maintenant, nous allons prendre un nouveau sujet. Israël en Canaan. Mais tout d'abord, j'aimerais encore retourner en Égypte et faire de l'archéologie avec vous. J'ai donc fait ça en deux parties parce que plusieurs seront endormis autrement. Alors, nous reprenons le travail de David Rawl. D'ailleurs, cet égyptologue, il n'est pas croyant, il n'est pas chrétien. Donc, lui, il ne s'intéressait pas pour montrer la véracité de la Bible, l'harmonie entre Bible et Égypte. Lui, pour lui, dès son enfance, l'Égypte, c'est sans sujet. En plus, il a marié une Égyptienne, donc vous voyez, ça va tout ensemble. Alors, il s'intéressait pour l'Égypte et il a trouvé dans son travail, qui est sa spécialisation, le troisième règne intermédiaire, il a trouvé que c'est impossible de le considérer comme une si longue époque. Il faut raccourcir et après il a vu comme ça joue bien avec la Bible. Maintenant, nous allons au Sérapé à Saqqara. Est-ce qu'on appelle ça en français Sérapé? Sérapéum, c'est là où on a enseveli les taureaux d'Apis. Ce qui nous intéresse, c'est cette entrée-là vers les tombeaux plus petits. Vous voyez ici une représentation d'un taureau d'Apis. En Égypte, on les vénérait comme des dieux. Et on avait toujours, à une certaine époque, un seul taureau vivant. N'est-ce pas? C'est comme le Dalai Lama. Il y a toujours un seul Dalai Lama au même moment. Ou si vous voulez, il y a toujours un seul pape au même moment. Ou ça devrait être comme ça, oui? Ce n'est pas toujours comme ça dans l'histoire. Eh bien, d'ailleurs, pour faire la relation avec la Bible, le veau d'or, après la sortie d'Égypte, c'était rien d'autre que la vénération du dieu du taureau d'Apis de l'Égypte. Chaque fois, lorsqu'un taureau d'Apis est mort, on l'a enseveli dans le Sérapé à Saqqara et on a mis une stèle sur laquelle on a écrit l'an exact de sa mort. À l'an de quel pharaon il est mort. Et après, on a institué un nouveau taureau. Alors, nous comprenons très bien que cela est un outil très agréable pour les égyptologues pour faire de la chronologie égyptienne. N'est-ce pas? Et ce qui nous intéresse, c'est... Voilà, entre deux, c'est aussi en français, c'est pas toujours allemand. Ce qui nous intéresse, c'est ce système des tombeaux les plus petits et une partie des grands tombeaux. Parce que là, nous avons un système parfait des tombeaux des taureaux d'Apis de la 21e jusqu'à la 26e dynastie. Donc de Ramsès II jusqu'à Psamétich. Et selon la chronologie traditionnelle, cela représente 606 ans. Mais on trouve ici à Saqqara seulement 22 tombeaux. Alors nous faisons maintenant de nouveau un petit calcul. L'âge moyen d'un taureau d'Apis est de 18 ans. Alors, nous faisons un calcul. 22 fois 18 ans, ça fait 396 ans. Mais nous constatons que la chronologie traditionnelle compte alors avec 210 ans de trop pour cette période. Donc, de nouveau, nous avons ici un argument pour montrer que cette période est trop longue. Ces dynasties n'ont pas toujours régné l'une après l'autre, mais entre deux, à côté, l'une à côté de l'autre. Alors, ces découvertes récentes prouvent encore qu'il faut raccourcir. Voilà, nous sommes séropés à l'intérieur. Et maintenant... Vous voyez ici le pharaon Echnaton. Vous dites comme ça? Vous prononcez différemment? Akhenaton. Voilà. Et ça signifie la même chose. Voilà, ses lèvres sont un peu particulières. On reconnaît tout de suite Akhenaton. C'est celui qui a d'ailleurs fait une révolution religieuse en Égypte, n'est-ce pas? Il voulait chasser tous les dieux et vénérer seulement un seul dieu. Malheureusement, ce seul dieu, ce n'était pas le dieu de la Bible, mais c'était le soleil. Voilà. Mais ça a donc mis en désordre toute l'Égypte, cette révolution. Et comme vous voyez sur votre feuille, sous le texte, la nouvelle chronologie au test de l'astronomie. Ce pharaon, selon la chronologie traditionnelle, a vécu vers 1350 avant Jésus-Christ. Mais avec la nouvelle chronologie, on devrait le mettre vers 1012 avant Jésus-Christ. Et maintenant, nous pouvons faire un test astronomique. Qui a raison? Ici, vous voyez la transcription d'un tablette avec le numéro de catalogue KTU trait d'union 1.78. C'est un tablette qu'on a trouvé dans le palais de Nikmatu II à Ougarit, donc dans le nord, au nord de la Syrie. Et cette tablette parle d'une éclipse solaire vers le coucher du soleil, au mois de Iyarou, ça c'est le mois biblique d'ailleurs, Iyarou, avril-mai. Et peu après cet événement qui est mentionné ici, le palais à Ougarit a brûlé. Par cela, cette tablette a été en quelque sorte comme dans une fournaise et a été bien transmise jusqu'à nos jours. Le texte est écrit en Ougarit. Vous voyez ici la transcription. C'est une langue parentée à l'hébreu. Si on sait l'hébreu, on n'a pas de grands problèmes pour comprendre le texte. Alors, le texte veut dire le soleil ou la déesse du soleil a été endommagée. Au premier jour du nouveau mois, au mois Iyarou, nous savons avril-mai, au coucher du soleil, et le gardien de la porte était Rashp, ça on ne comprend pour le moment pas du tout. Et voilà, ça signifie. Un danger. Et effectivement, peu après, ce palais a brûlé, et dans une lettre du roi de Tyr de l'époque, à Akhenaton, c'est dans la lettre d'El Amarna, avec le numéro catalogue 151, ce roi Abimilko de Tyr parle du malheur du palais à Ougarit. Alors, ça veut dire que Akhenaton a dû vivre dans l'époque où cet événement astronomique a eu lieu, n'est-ce pas? Mais une éclipse solaire est très rare à une certaine région, n'est-ce pas? Qui, entre vous, a déjà vu une éclipse solaire complète? Voilà, quelques-uns. Mais peut-être ils ont fait un voyage. Voilà. Ça rappelle. Mais c'est un événement rare à un certain endroit. Et en plus, ça doit être dans un certain mois, comme ici, le mois Iyarou. En plus, ça doit être lors du coucher du soleil. Et un tel événement à un certain endroit, théoriquement, se passe une fois dans 10 000 ans. Alors, avec un ordinateur, prenons maintenant le programme Redshift, que vous pouvez acheter maintenant sur CD-ROM, mais qui est excessivement bien, mais pas très cher, un peu plus que 100 francs. Nous allons trouver à Ougarit cet événement. Et nous trouvons une seule solution. Voilà. Éclipse solaire, lors du coucher du soleil. Et voilà, une étoile ici, juste à côté. Rashp est le gardien de la porte, n'est-ce pas, vers le monde des morts, le monde souterrain. Et cette étoile n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle a éclaté par une supernova il y a à peu près 1000 ans. Et ça a donné le nébuleux du cancer. Maintenant, on sait ce que c'est le Rashp. Alors, sur la feuille, vous trouvez le moment de cet événement. C'était mercredi 9 mai 1012 avant Jésus-Christ. Un coup au but pour la nouvelle chronologie, je dirais. Et par cela, nous déduisons que la 18e dynastie ne commença pas vers 1570 avant Jésus-Christ, mais plutôt 377 ans plus tard, à l'an 1194 avant Jésus-Christ. Donc, cela nous prouve qu'il faut réviser la chronologie égyptienne. Et voilà les conséquences pour Canaan. Voilà les enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte, d'Avaris, de Ramsès, la ville de Ramsès, et passent par la mer Rouge, par le désert, vers la montagne du Horeb, ils reçoivent les tablettes de la loi. Et pendant ces 40 ans dans le désert, il reçoit le début de la Bible, les 5 livres de Moïse, la Torah. Et finalement, ils arrivent à l'entrée du pays promis, à l'autre côté du Jourdain, à l'autre côté de Jéricho. Voilà, au Sinaï, ils ont reçu les 10 commandements. Et après un long voyage, nous trouvons le peuple d'Israël pour la dernière fois ici, au dehors du pays promis, le pays de Canaan. Ils ont dû traverser le Jourdain et le premier problème était Jéricho, cette forteresse, ces grands murs de Jéricho, mais qui, par la foi du peuple et par la force de Dieu, sont tombés devant Israël. Ici, vous voyez une vue du pays promis depuis Nebo, donc la montagne où Moïse a encore vu le pays promis, mais il n'a pas pu entrer dans le pays promis. Et nous savons la raison, je pense. Mais il y a encore un sens plus profond dedans. Josué a dû introduire le peuple dans la promesse et dans la bénédiction de Dieu. N'est-ce pas? Moïse, qui a donné la loi, représente en lui-même la loi de Moïse. Et la loi nous montre ce que Dieu demande de nous. Et nous savons, personne de nous est capable de faire ce que Dieu demande. Ça veut dire, par les œuvres, en pratiquant la loi, personne ne peut atteindre le salut et la bénédiction de Dieu. Moïse ne peut pas introduire les hommes dans la promesse de Dieu et dans la bénédiction de Dieu. Donc, il a vu depuis ici tout le pays. Et dans la loi de Moïse, nous voyons tant de prophéties quant au Messie qui devrait une fois venir. Mais Moïse n'a pas pu
faire entrer dans la promesse.
Il voit, mais il doit mourir ici.
Mais Josué, c'est lui qui a introduit le peuple. Et la forme hébreu de Josué, c'est Yehoshua. La forme abrégée, c'est Yeshua, ce qui est Jésus. Donc, c'est Jésus qui introduit le peuple dans la promesse. Et en Jean 1, l'évangéliste nous explique la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Voilà. Des grands contrastes. Seulement par le Seigneur Jésus, nous pouvons recevoir la bénédiction de Dieu. Alors, ça c'est une explication dans du sens spirituel. Et maintenant, voyez le Jourdain. Au printemps, autrefois, maintenant vous ne voyez plus jamais. C'est le moment où l'eau du Jourdain est à le plus haut niveau, toujours en printemps. C'était là le moment où Israël est venu pour aller à Jéricho. Impossible pour traverser. Le fleuve de la mort était une barrière. Il faut passer par l'impossible, par la mort, pour entrer dans la bénédiction. Pourquoi le Jourdain est le fleuve de la mort? Eh bien, il descend à la mer morte, complètement morte. Alors, il parle de la mort. Et le peuple d'Israël a passé le Jourdain, mais ils sont pas passés par l'eau. Ils étaient vraiment entièrement, ils ont passé à pied sec. Mais d'abord, l'arche de l'Alliance, là où on a mis le sang du sacrifice. Et les sacrificateurs sont entrés dans le Jourdain. Et tout d'un coup, le miracle s'est produit. Le Jourdain a été arrêté. Si ce n'était pas par un tremblement de terre, c'est une possibilité pour expliquer. Mais en tout cas, c'était un miracle. Parce que ça s'est déjà fait dans l'histoire, que le Jourdain a été bloqué par des tremblements de terre. Mais en tout cas, le miracle divin était que c'était exactement à ce moment-là, et tout le peuple pouvait passer. Alors cela nous montre comme, en croyant en le sacrifice et en la signification de la mort de Christ, comme ça, nous pouvons recevoir la bénédiction de Dieu. Le Seigneur, lui, est allé le premier. Et ceux qui croient en lui peuvent dire, je suis crucifié avec Christ. Mais ils n'ont rien, nous n'avons rien senti ce que c'était la crucification de Christ. C'est passé le Jourdain par la bonté et la grâce de Dieu. Et ensuite, nous voyons Jéricho. Ici, derrière, vous voyez le tel. Tel, ça veut dire en hébreu et en arabe, une colline. Mais une colline due à des restes de civilisation, des déchets de civilisation. On trouve ça, cette image très souvent au Proche-Orient. Si vous avez un œil un peu habitué, vous pouvez découvrir de telles collines, et vous savez que là, il y a encore une ville à trouver, qu'on n'a pas encore trouvée. Donc, une première génération a commencé à habiter quelque part. Cette ville a été détruite, et après, ils ont rebâti la ville sur le même endroit, mais un peu plus haut, n'est-ce pas? Elle était de nouveau détruite, et ils ont rebâti après sur le même lieu, un peu plus haut. Et voilà, ça a formé de telles collines au Proche-Orient. Et lorsqu'on veut donc faire des recherches à Jéricho, ici vous voyez ça un peu mieux, une femme, une des plus grandes archéologues du XXe siècle, Kathleen Canyon,
a fait des fouilles ici, il y a quelques décennies. Vous voyez ici, il a fait soigneusement des travaux et ici. Alors, il a bien distingué les différentes couches de colonisation de Jéricho. Ça, il faut bien distinguer. Et on peut distinguer dans chaque couche de la poterie qui est typique pour une certaine période. Couches archéologiques. Mais il a vécu un problème. Lorsqu'il est venu à l'époque de Josué, conquête Jéricho, il constate que Jéricho n'avait pas de mur à l'époque. Alors, on peut arrêter à chanter Joseph hit the battle of Jericho, 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 Joseph hit the battle of Jericho, and the wall was trembling down. Parce qu'il n'y avait jamais des murs qui sont tombés. Tiens. Alors, vous voyez, les savants libéraux qui ont dit, mais, voyez, l'histoire biblique, c'est pas fiable, mais au moins le sens qu'on veut exprimer, c'est ça qui est important, mais pas les faits historiques. Et dernièrement, j'ai parlé sur ce sujet-là en allemand, c'est pour ça que j'ai oublié de changer la langue. Vous m'excusez. Alors là, quelqu'un m'a dit, nous avons eu une Bible pour enfants, mais ça nous a bien embêtés parce que c'était écrit en rapport avec Jéricho. À l'époque, il n'y avait pas de mur. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est le message. Ce n'est pas le fait que ça s'est vraiment passé comme ça. Vous vous rendez compte? Alors cet homme, il m'a dit, finalement, ils ont trouvé que c'est plus utile de faire du recycling avec ça. Oui, et puis comme ça, on a éduqué des enfants. Mais maintenant, avec la nouvelle chronologie, on peut la tester à Canaan. La période de Josué est maintenant l'âge de la branche moyenne de B. N'est-ce pas? De A, c'était la civilisation en Égypte. De B, c'est la période de la conquête en Canaan. Ah! Alors, on a trouvé quelque chose. Ici, vous voyez une représentation de la branche moyenne de Jéricho. Les travaux de Kathleen Kenyon étaient bien utiles parce que, bien ici où la ville se trouvait à l'époque, on ne trouve pas de mur. Mais tout au dehors, ici en bas, on a trouvé encore la mur de la branche moyenne. Les murs sont tombés entièrement à l'extérieur, jusqu'en bas. Entre deux, il y a encore une mur, comment on dit, une mur pour de soutien. C'est donc pas le mur de la ville même, mais c'est une aide. Et entre deux, il y a encore un glacis. C'est donc une région qu'on a fait pour des raisons stratégiques. Si quelqu'un voulait attaquer la ville, il devait passer ici et 100% on pouvait le tuer. Alors, vous voyez ici une partie de ce glacis. C'est donc pas du pierre, c'est du... oui, une sorte de terre, du calcaire. Voilà, hein, le mur de soutien de l'époque de Josué. Mais les murs de la ville sont entièrement tombés à l'extérieur. Mais ce qui est une vérité, lorsqu'une ville est attaquée par des ennemis, les murs tombent à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais à Jéricho, à l'époque de Josué, ils sont tombés entièrement à l'extérieur. Ce qui nous montre donc l'événement biblique. Il était unique. Et qu'est-ce que ça peut nous montrer, n'est-ce pas? Lorsque on a, par la foi en Jésus-Christ, reçu la bénédiction de Dieu, le pardon des péchés, la vie éternelle, la justification par la foi, la communion avec le Père et le Fils, le Seigneur Jésus, etc. On pourrait expliquer tout ce que ça signifie, le pays de Canaan, spirituellement. Eh bien, il y a aussi beaucoup de difficultés. Il y a parfois des forteresses qui sont contre nous. Et nous ne savons pas quoi faire. Je reviens encore. Nous ne savons pas quoi faire avec nos propres forces. Et l'apôtre Paul dit, au chapitre 6 de l'épître aux Éphésiens, que nous avons, il faut prendre toute l'armature de Dieu pour combattre contre les ennemis spirituels de méchanceté. Donc le diable ne peut, s'il n'a pas pu nous freiner, accepter le salut en Christ, il veut nous freiner dans notre vie spirituelle par des forteresses comme, qui peut être pour l'un, c'est la théologie libérale, qui peut être un obstacle dans sa foi. Pour un autre, c'est la doctrine d'évolution. Pour un autre, c'est un péché particulier qui est un danger pour lui, qui le tente particulièrement. Il y a tant de forteresses, mais nous lisons en Hébreux 11, « Par la foi, les murs de Jéricho sont tombés. » Donc, nous avons ici aussi des leçons spirituelles, pratiques, par des histoires qui se sont vraiment, qui ont vraiment eu lieu dans l'histoire. Et voilà d'autres villes en Canaan. Là, nous allons à Hatzor, au nord d'Israël. Vous voyez, de nouveau, un tel. Là, on a fait des excavations de différentes couches. Là, nous trouvons cette section qu'on a, dans les derniers ans, fait des fouilles de bronze moyenne de B. On a trouvé un palais qui a brûlé. Et dedans, on a trouvé un tablette. Petit mais intéressant, parce qu'il mentionne le nom d'un Jabin. Dans le livre de Josué, c'était Jabin, le roi de Hatzor, qui a été frappé par Josué et son armée, et Hatzor a été brûlé. Voilà. Mais exactement dans cette époque, ça joue. Pas dans les autres. Alors, en quelque sorte, c'est comme si des archéologues, dans l'avenir, voudrions une fois chercher Bill Clinton. Et ils vont chercher dans les archives de la réforme. Finalement, ils disent, mais on n'a jamais trouvé dans les archives de la réforme, on n'a jamais trouvé un Bill Clinton. Donc, il n'a jamais vécu. C'est un mythe. Les Américains ont bien eu des idées. Mais il faudrait simplement chercher dans les archives du XXe siècle. Et là, on trouve Bill Clinton. C'est la même chose si on voudrait chercher Otto Stich dans les archives de la réforme. On ne va pas trouver quelqu'un qui a régné sur la Suisse et qui s'appelait Otto Stich, mais au XXe siècle, on le trouve. C'est exactement ce problème qu'on rencontre ici. Et voilà, il y a d'autres villes, c'est Lachish ici, mentionné en Josué 10, qui était aussi conquis par Josué. Et exactement dans cette période, bronze moyenne 2B, Lachish a été conquis. C'est la même chose pour Hébron. Je vous donne sur la feuille le passage en Josué 10. Si nous sommes en Hébron. Exactement dans cette période, Hébron a été conquis. Arad, oui. Dans la période bronze moyenne 2B, maintenant, vous ne le savez pas cœur, n'est-ce pas? A été conquis. Et maintenant, nous allons à Silo. Parce que En Josué 18, nous lisons que là, les enfants d'Israël ont placé le tabernacle, donc le temple transportable qu'ils avaient construit lors du voyage dans le désert. Ils l'ont mis ici et devant l'entrée du tabernacle, ils ont pris les lots pour distribuer le pays promis aux 12 tribus. Alors, une localité bien importante dans l'histoire du peuple d'Israël. Là, on a encore entre deux, encore une ville que, de cette époque qu'on a, c'est Gezer qui aussi dans cette époque a été conquis. Voilà, à Silo. Le tabernacle, ici en maquette. Et ici, devant cette porte, on a tiré au sort pour distribuer le pays promis. Voilà, à Silo, on a trouvé un district saint qui a été préparé pour avoir ici un sanctuaire. Mais on ne trouve pas de mur d'un sanctuaire. On voit simplement que c'est une place sanctifiée, encadrée par des murs. Nous comprenons bien pourquoi il n'y a pas de reste d'un temple, puisque le tabernacle était mis ici. Mais l'archéologue israélien Finkelstein, qui a travaillé ici, se basait encore sur l'ancienne chronologie. Et qu'est-ce qu'il a dit ? C'est intéressant de voir qu'à Silo, c'était un lieu de culte déjà avant la venue d'Israël au pays de Canaan. Donc c'est intéressant qu'il y avait déjà avant ici un tel lieu, et il semble que c'était effectivement un centre pour le pays de culte ici. Et maintenant, avec la nouvelle chronologie, nous disons, oui, M. Finkelstein, vous avez eu raison, mais ce n'était pas les Cananéens, mais les Israéliens, parce que cette période, c'est la période israélienne de la conquête. Alors, nous savons que ici, l'Arche de l'Alliance a été placée dans un lieu très saint, dans le tabernacle, le trésor le plus grand du tabernacle. Ici, vous voyez des restes de ce mur qui encadrait ce district saint à Silo de la période de Josué. Voilà, nous avons trouvé une place bien importante dans l'histoire du peuple d'Israël. Maintenant, nous allons à Sichem. Aujourd'hui, c'est Nablus. C'est la plus grande ville dans le territoire occupé de la Cisjordanie. Nous voyons ici, nous avons ici une vue depuis le Garissim sur la ville. Mais qu'est-ce qu'il y avait ici à Sichem? Nous lisons dans le dernier chapitre du livre de Josué que Josué, à la fin, lorsque le pays a été distribué, il rassemble encore une fois le peuple à Sichem pour faire l'alliance avec eux. Et il dit, vous devez rester fidèles à l'Éternel. Comme ça, vous pouvez retenir le pays. Mais si vous abandonnez l'Éternel, alors il savait qu'il devait perdre le pays promis. Exactement là, dans une région qui est une des plus dangereuses aujourd'hui, dans la question, à qui appartient le pays, n'est-ce pas? Alors, ici, vous voyez les découvertes de Sichem, et ce qu'on a laissé libre, c'est exactement les couches de la bronze moyenne 2B. Là, on voit encore des restes d'un sanctuaire, d'un temple. Ici, nous trouvons une pierre qui a été mise là comme une énorme stèle. Qu'est-ce que ça signifie? On voit encore mieux ici. Eh bien, ce temple-là, c'est un temple avec une tour, et nous trouvons cela comme le temple Baal-Brit dans le livre des Juges. Et ce sanctuaire a été brûlé, et ça correspond exactement avec l'histoire dans le livre des Juges, sous Abimélec, lorsque à Sichem, le temple de Baal-Brit a brûlé avec énormément de personnes dedans. Mais cet endroit était encore intéressant et important avant. Ici, vous voyez le temple de Baal-Brit, de l'époque du livre des Juges. Mais ici, nous avons une grande pierre devant. Et voilà, en Josué 24, nous allons juste lire, verset 25. Et Josué fit une alliance avec le peuple en ce jour-là, et lui établit un statut et une ordonnance à Sichem. Et Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Et il prit une grande pierre et l'adressa là sous le chêne, qui était auprès du sanctuaire de l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici cette pierre sera témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles de l'Éternel, qu'il nous a dites. Et elle sera témoin contre vous, de peur que vous ne reniez votre Dieu. » Et Josué renvoya le peuple, chacun à son héritage. Il a fait l'alliance, il a mis une pierre, mais là il est dit devant un sanctuaire, auprès du sanctuaire de l'Éternel. Mais le tabernacle était à Silo, pas à Sichem. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, il faut réfléchir à Genèse 12. Lorsque Abraham, le père d'Israël, est entré dans le pays de la promesse, la première fois que Dieu se révèle dans le pays, c'était à Sichem. Et l'Éternel dit, lui est apparu et dit, « Ce pays, je donnerai à ta semence. » Exprès, à Sichem, ce n'est pas à Haïfa, ce n'est pas à Tel Aviv, c'est à Sichem, où l'Éternel pour la première fois dit, « Ce pays, je donnerai à ta semence. » Et Abraham a fait là un autel. Donc, c'était une place sainte pour le peuple d'Israël, déjà à l'époque, parce que leur père Abraham avait ici un autel. Donc, nous sommes ici chez la place où Abraham, un peu plus bas, n'est-ce pas, avait son autel. Et maintenant, nous comprenons mieux la signification de cette pierre, qui se trouve encore là. Et Josué a dit, cette pierre a entendu la parole de l'Éternel, cette alliance avec vous. Si vous reniez l'Éternel, alors vous allez perdre le pays. Et nous savons que lorsque le Messie a été renié par la masse, Israël a été dispersé dans le monde entier pendant presque 2000 ans. Ils ont perdu le pays. Et cette pierre est encore là et témoigne devant nos yeux. Pendant 2000 ans, ils étaient dispersés, ils ont perdu. Mais cette pierre était toujours là, dans les couches archéologiques. Et maintenant, au XXe siècle, elle est venue de nouveau à la lumière. Et exactement à cette époque où les enfants d'Israël sont retournés, pas de l'Égypte, mais de tous les 5 continents, de plus que 140 pays différents. Selon la promesse d'Ézéchiel et d'autres prophètes, je vous prendrai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous apporterai dans votre pays. Et Ézéchiel dit que Dieu le fera pas parce qu'ils ont mérité, mais à cause de sa, de la gloire de son nom. Afin que les autres peuples ne puissent pas dire, « Ah, voilà, leur Dieu, il n'a pas pu garder son peuple. » Donc, pour la gloire de son nom, il les retourne dans le pays. Et dans notre siècle, 1948, l'État d'Israël, après presque 2000 ans, a été fondé de nouveau. Et voilà Sichem, entre Garizim et Ibam, là où cette pierre se trouve. Et Josué a dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Cette parole a été aussi écoutée par cette pierre. Il nous exhorte à la fidélité et à la loyauté vis-à-vis du Seigneur. Et voilà, n'est-ce pas, les musulmans ne savent pas ce que j'ai raconté aujourd'hui. Autrement, cette pierre, elle ne sera plus là. Mais c'est comme une ironie. Exactement sur cette pierre, il y a ici une inscription, un graffiti de l'Intifada. S'ils savaient où ils ont mis ce graffiti. Donc, où il s'agit vraiment... Cette terre n'appartient pas à Israël. Mais c'était là où Abraham a eu une apparition de l'Éternel. Je donnerai ce pays à ta semence. Où Josué a fait l'alliance avec les enfants d'Israël. Et nous voyons comme l'archéologie, ce n'est pas quelque chose qui... intéresse ou devrait intéresser que quelques personnes, mais les pierres crient, on peut dire, parce que trop d'êtres humains se taisent. Alors les pierres aujourd'hui crient d'une façon extraordinaire et nous en témoignent des événements et des faits que l'Éternel a accomplis à travers de toute l'histoire. Et il nous montre que l'Éternel n'a pas seulement dans le passé agi, mais il agit aussi au XXe siècle. Et si nous avons les yeux ouverts, alors nous pouvons voir que l'Éternel accomplit ses plans, ses desseins de l'histoire sainte avec Israël, avec l'Église et avec les nations. Et j'aimerais finir avec un beau verset d'Ésaïe 40. Le prophète trouvé dans les cavernes de Qumran. Voilà, Bible et archéologie en harmonie. L'herbe est desséchée, la fleur est fanée. Mais la parole de notre Dieu demeure à toujours.